Bonjour Cheryl et bonjour aux auditeurs de Meuse FM.
Bonjour Léa et bonjour à tous. Nous sommes à Nancy, à l'Académie de Nancy-Metz.
Et nous allons présenter l'émission de radio spéciale Canopée. Pour cette occasion, nous allons évoquer différents sujets, tous réalisés par des lycéens, tous plus talentueux les uns que les autres. Il va y avoir du sport, du cinéma, des jeux vidéo, on va parler de la Fashion Week et aussi de faits d'actualité, dont un qui, je le sais, te touche particulièrement, Cheryl.
Oui, je suis en seconde et mon avenir est en jeu avec cette nouvelle réforme. J'attends avec impatience les informations que Jenna et Juliette ont récoltées à ce sujet avec leur micro-trottoir.
Oui, moi aussi, même si je ne suis désormais plus concernée. Je te propose tout de suite de les écouter.
Oui, bonjour Cheryl et Léa. En effet, nous avons recueilli le témoignage et les impressions de professeurs à propos de cette réforme. Donc, dans un micro-trottoir que Jenna et moi avons réalisé.
Je vous laisse les écouter.
Vous connaissez certainement les différences entre ces deux plateformes.
Oui, alors je les connais parce que je forme les élèves tous les ans, je les aide à s'inscrire. La grande nouveauté cette année, c'est que les élèves n'ont plus 10 vœux à faire et des vœux qui sont non classés comparé à l'année dernière où ils pouvaient en faire 24. Mais à partir du moment où ils avaient un vœu avec une réponse positive, tous leurs autres vœux étaient effacés. Donc là, ils auront la possibilité d'attendre certaines réponses, de dire oui à un vœu et d'attendre, quand ils sont sur liste d'attente, d'avoir une prochaine réponse pour choisir le vœu qu'ils veulent faire.
Donc vous trouvez que cette nouvelle plateforme est plus adaptée aux besoins des élèves ?
Globalement, elle n'a pas vraiment changé. C'est vraiment le choix des vœux, enfin le fait d'avoir plus que 10 vœux non classés. Il y a également le fait que maintenant, chaque vœu doit être motivé, c'est-à-dire que pour chaque vœu, les élèves doivent faire une lettre de motivation, ce qui n'était pas le cas avant.
En tant que professeur, vous êtes plutôt favorable pour ce changement.
Alors, en fait, la grosse polémique, c'était le nombre de places à la fac. Pour l'instant, on ne sait pas si ce système, cette nouvelle plateforme, va permettre à tous les élèves d'obtenir un vœu. J'attends de voir les résultats pour pouvoir dire si c'est positif ou non. Mais déjà, le fait de ne pas classer les vœux à partir du 22 mai, pouvoir prendre la décision, je trouve que c'est quand même positif. Le côté négatif, c'est par contre les dates, puisque les élèves avant avaient du 21 janvier au 21 mars pour s'inscrire. Et cette année, ils ne peuvent s'inscrire que du 22 janvier au 13 mars. Et le 13 mars, c'est le lendemain du retour des vacances pour notre académie. Et du coup, ça fait un peu court pour le choix.
Merci beaucoup. En définitive, vous attendez de voir qui va advenir de ce changement finalement, parce que c'est trop tôt.
Voilà, tout à fait.
Bien, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Bonne continuation.
Par rapport à ce changement, les avis sont partagés. Si certains appréhendent cette réforme, d'autres sont plutôt confiants.
En effet, cette réforme est toute jeune. Elle vient à peine d'être mise en place. Nous allons donc attendre de voir la suite des événements pour pouvoir conclure plus précisément.
On les remercie beaucoup.
Enfin, une réponse adaptée à mes questions. Léa, tu t'y connais un peu au foot ?
Oui, je connais quelques grands joueurs, comme Zidane, mais sans plus.
Justement, nous allons accueillir Baptiste et ses rêves pour nous en apprendre un peu plus sur deux légendes du foot. À toi, Baptiste.
Je vais vous parler de Ronaldinho, le maestro, né le 21 mars 1980 à Porto Alegre au Brésil. C'est un joueur talentueux. Il a 20 ans quand il signe son premier contrat pro. Deux ans plus tard, il se fait recruter par le Paris Saint-Germain. Après deux ans passés au sein de la capitale française, le Brésilien signe au FC Barcelone pour 5 ans. Au sein du club espagnol, il gagne de nombreux trophées comme le Ballon d'Or et le meilleur joueur de l'année FIFA, deux ans de suite. En 2006, il réalise un triplé en remportant le championnat espagnol, la Supercoupe d'Espagne et la Ligue des Champions. C'est l'un des joueurs les plus capés de l'histoire du football. Il est surtout connu pour ses dribbles fulgurants, sa conduite de balle incroyable et sur le terrain. Ronaldinho est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du foot de tous les temps. Après 17 ans de carrière, le maestro brésilien a décidé de mettre un terme à sa carrière à l'âge de 37 ans.
Eh bien, quelle carrière ! Mais nous avons aussi des légendes du foot français, n'est-ce pas, CRF ?
Effectivement ! Zinedine Zidane, né le 23 juin 1972 à Marseille. Zidane est un très grand joueur de foot qui a évolué au milieu offensif. Comme meneur de jeu, il a parcouru plusieurs clubs, AC Cannes, Bordeaux, la Juve et le Real de Madrid. Ses récompenses, Ballon d'Or, meilleur footballeur de l'année FIFA... Meilleur coach, le 6 juillet 2006, Zidane marqua l'histoire de tous les Français, la finale de la Coupe du Monde France-Italie. Zidane marqua le premier but à la 7e minute. Pendant les prolongations, à la 8e minute, alors que l'on se dirigeait vers le tir au but, le défenseur Materazzi provoqua verbalement la colère de Zidane et qui a répondu par un coup de tête. Et nous avons perdu le match au tir au but 5-3. L'Italie gagna la Coupe du Monde 2006. L'équipe de France est arrivée deuxième. Actuellement, Zidane est le coach du Real de Madrid depuis 2014.
Bien, merci pour toutes ces informations. Cheryl, sur un autre sujet, j'ai une question pour toi. T'aimes aller au cinéma parfois ?
Oui, j'aime beaucoup ça d'ailleurs. T'aurais pas un film à me proposer ?
Ah, tu sais, pour un conseil en cinéma, il faut s'adresser à nos experts.
Louis et Antonin. Bonjour messieurs, je sais que vous avez un film à nous conseiller, un film d'animation. Louis, quel est ce film ?
Zootopie. Zootopie est un film d'animation de Disney et est réalisé par Brian Howard et Rich Moore. Il est sorti en salle le 17 février 2016.
Largement recommandé par la critique, il a notamment reçu un Oscar et un Golden Globe.
De quoi parle ce film ?
Ce film nous parle d'une ville, Zootopie, qui n'est peuplée que d'animaux, des mammifères anthropomorphes. Le personnage principal est une petite lapine nommée Judy Hopps, qui a fait son entrée dans la police de la ville. Première lapine policière, elle aimerait faire ses preuves et monter en grade. Malheureusement, en tant que proie dans un milieu de prédateurs, elle se rendra rapidement compte que c'est plus difficile que prévu. Voulant à tout prix arriver à son objectif, elle s'allie avec un renard, Nick Wilde, la langue bien pendue, il est un véritable virtuose de l'arnaque. Contraint à aider Judy, il enquêtera sur la disparition de plusieurs proies.
Oui, donc Zootopie ne semble pas être un vulgaire film pour enfants, mais comme vous savez, il y a souvent des clichés sur tous les films d'animation.
En effet, il s'agit d'un véritable long métrage. Travaillé durant plusieurs années avec une équipe complète aux compétences diversifiées, nous sommes plongés dans Zootopie, une ville multiculturelle inspirée des architectures du monde entier. Rappelons fortement l'American Dream, là où tous les rêves sont réalisables. L'univers qui nous est dévoilé, contrairement à ce que laisse penser son nom, n'est pas idyllique et reflète les problèmes de notre société actuelle, notamment l'acceptation de la différence. Les tensions régnant entre prédateurs et proies, les différents milieux sociaux, les organisations criminelles ou les discriminations sont des sujets importants du film. Pour moi, c'est vraiment important d'avoir ce genre de message actuel de tolérance à transmettre aux enfants, plus susceptibles de voir Zootopie. On trouve aussi des références cinématographiques intéressantes à la série Breaking Bad ou Le Parrain.
Qu'avez-vous pensé du film ?
Alors, Zootopie, c'est un peu pour moi le déclic. C'était le film que j'attendais. Je dois admettre que je suis devenu un gros fanboy. Ça m'a permis de me lancer dans l'écriture, avec ma fanfiction, et de me faire de nombreux amis partageant la même passion. J'attends patiemment la sortie d'une éventuelle suite, qui j'espère sera réussie, ce qui n'est clairement pas le fort de Disney.
Moi aussi, j'ai bien aimé ce film, parce qu'il m'a ramené en enfance avec ses belles animations. Pour conclure, Zootopie est un film qu'il faut avoir vu, que ce soit pour son histoire, pour ses personnages attachants et ses messages actuels.
Eh bien oui, cela donne envie d'aller le voir, n'est-ce pas Cheryl ?
Exactement. Maintenant, nous allons accueillir une jeune lycéenne passionnée de jeux vidéo.
Laura va nous présenter ses trois coups de cœur. Tout d'abord, le jeu Mario Odyssey.
Effectivement, Mario Odyssey qui a battu des records de vente lors de sa sortie sur Switch en octobre 2017. Il est le nouveau jeu de la célèbre licence Mario, développée par Nintendo. Dans cette aventure, le plombier moustachu devra encore sauver la princesse Peach des griffes de Bowser. Cependant, de nouveaux ennemis, nouvelles mécaniques et nouveaux lieux à explorer rendent le jeu tout de même innovant. Son niveau de difficulté et ses 999 lunes cachées font de ce jeu un jeu long et accessible pour tous.
Eh ben, ça donne envie de jouer. Et ton deuxième coup de cœur, Laura, c'est le jeu Monster Hunter World.
Oui, en effet, c'est le 14e jeu de la série Monster Hunter, sorti sur PS4 en 2018 et développé par Capcom. Comme toujours, nous incarnons un chasseur dont la mission est de tuer les monstres proches des villes, terrorisant les pauvres habitants. Ce jeu est très différent des jeux précédents, avec enfin beaucoup de nouveautés, comme de nouveaux éléments, un monde ouvert gigantesque, de nouveaux graphismes, rendant ce jeu visuellement très plaisant, et bien sûr de nouveaux monstres. La durée de jeu est quasiment infinie grâce aux nombreuses missions de chasse ou de récolte qu'il propose. Il est devenu le meilleur lancement de la PS4 et a permis de relancer la licence Monster Hunter qui commençait à se faire doucement oublier.
Enfin, nous allons parler d'un jeu particulier, mais pourtant plutôt méconnu.
En effet, White Day est un jeu plutôt inconnu qui est d'abord sorti en 2004 avant d'être refait pour la PS4 en 2017. Il a été créé par les studios Sonori et P-Cube. Ce jeu d'horreur à la première personne s'inspire de traditions et de légendes coréennes et raconte l'histoire d'un jeune homme enfermé dans son école et poursuivi par des esprits maléfiques. Le héros devra résoudre des énigmes tout en fuyant les nombreux ennemis présents pour progresser. Lors de l'aventure, le héros sera confronté à certains choix difficiles, ce qui peut mener à 10 fins différentes. Certaines heureuses et satisfaisantes, et d'autres où le jeune homme meurt ou reste prisonnier. Il y a également 20 fantômes cachés dans toute l'école, ce qui permet de rendre le jeu assez long. Le scénario, l'ambiance et les mécaniques de ce jeu sont simples, mais pourtant très efficaces.
Eh bien, je ne sais pas lequel choisir, j'ai envie de tous les acheter à vrai dire.
Moi, je pense que je vais acheter le troisième. Il me donne envie. Merci Laura pour tous ces conseils. Anna et Tiffany sont en première métier de la mode et du vêtement, et ça se sent. Elles sont passionnées par leur sujet et aujourd'hui, elles vont nous parler de la Fashion Week. Anna, on t'écoute.
Effectivement, tout a commencé à New York avec la Press Week, un événement privé créé par Eleanor Lambert. En 1952, Giovanni Battista Giordini s'inspire de la Press Week pour la première représentation de mode à Florence. La manifestation s'installe ensuite à Milan en 1957, puis à Londres en 1961.
Mais je pensais qu'il y avait une Fashion Week à Paris.
Oui, la Paris Fashion Week, appelée aussi la Semaine de la Mode à Paris ou Fashion Week de Paris, est une célèbre semaine de défilés qui, sous forme actuelle, a lieu tous les 6 mois, depuis 1973 à Paris avec des événements consacrés à la haute couture, d'autres consacrés au prêt-à-porter ou encore à la mode masculine. Ce sont des collections printemps-été et des collections automne-hiver. À Paris, les plus grandes marques de mode présentent jusqu'à 6 collections par an.
La première Fashion Week s'est déroulée à Versailles en novembre 1973. Pour cela, 5 maisons françaises dont Dior, Yves Saint Laurent et Givenchy ont affronté dans un match de mode 5 jeunes créateurs américains dans le but de récolter de l'argent pour rénover le château de Versailles qui héberge l'événement.
Vous avez certainement un créateur qui vous inspire, qui vous a marqué.
Pour moi, ce serait sûrement Yves Saint Laurent qui est l'un des couturiers les plus connus de la Fashion Week. Il est né à Oran en 1936 et il est mort à Paris en 2008. Dessinateur doué, il a travaillé pour Dior avant d'être son propre patron en 1961. Ensuite, il ouvre une boutique Saint Laurent Rive Gauche en 1966. Le but est de toucher un public plus populaire. Il a été inspiré durant toute sa carrière par de nombreux artistes en dehors de la haute couture comme Picasso, Van Gogh, Apollinaire, Matisse ou encore Cocteau.
Pour conclure, qu'aimez-vous le plus dans la Fashion Week ?
Ce que j'aime dans la Fashion Week, ce sont généralement les créations.
Pour moi, ce serait la création de robes. Nous vous invitons donc à aller voir une de ces représentations de mode ou même de les suivre sur Internet.
Eh ben, nous aimerons bien. Merci les filles.
On va évoquer maintenant un sujet qui concerne tout le monde et pas seulement les femmes.
Oui, le harcèlement est l'affaire de tous. Louise et Maryse sont allées à la rencontre des passants pour les interroger sur ce problème. Maryse, que peux-tu nous en dire ?
Comme l'ont annoncé Cheryl et Léa, Louise et moi-même sommes descendues dans les rues de Nancy afin de réaliser un micro-trottoir au sujet du harcèlement de rue. Écoutons-les.
Croyez-vous que le harcèlement de rue existe vraiment ?
Bah ouais, je pense que c'est une réalité qui existe vraiment parce que sinon, on verrait pas ça à la télé ou dans des... Comment dire, sur Internet, je pense que ça existe vraiment parce que c'est pas des choses infondées.
Alors le harcèlement, c'est quand on vient empiéter sur l'intimité de la personne. La différence entre la drague, on va dire, et le harcèlement, c'est quand la personne dit non ou qu'elle fait signe de ne pas être intéressée et que l'autre personne en face continue à insister. C'est le fait d'être insistant.
Ce qui est compliqué, c'est de définir qu'est-ce que le harcèlement de rue et qu'est-ce qui n'est pas le harcèlement de rue. Parce que, par exemple, moi j'aime bien rencontrer des gens, et par exemple, si je trouve quelqu'un qui m'a l'air très sympathique, ou que ce soit une fille ou un homme, j'aimerais pouvoir lui parler et faire sa rencontre. Après, il est vrai qu'il y a certains dialogues qui sont moins sympas, mais on m'a jamais vraiment embêté.
Ah, c'est quand, par exemple... On se fait agresser dans la rue pour se faire piquer son portefeuille ou quand, par exemple, il y a un mec, il est lourd avec une fille, veut son numéro de téléphone, etc. C'est vraiment des trucs infâmes, quoi, mais c'est ce genre de trucs, quoi, je trouve.
Pour moi, c'est à partir du moment où on est abordé ou accosté par des personnes, que l'on ne connaît pas et qui comportement anormal, pour moi, ça commence déjà. Là, le harcèlement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous, en tant que personnes interpellées, on n'est plus à l'aise, où on nous met mal à l'aise, pour moi, ça commence à partir de là.
Le harcèlement est ainsi connu et condamnable, mais reste encore trop présent en France. Pour rappel, 82% des Françaises de moins de 17 ans ont déjà été victimes de harcèlement.
Eh bien, merci de nous rappeler ces informations essentielles. Je pense que c'est toujours bien de les rappeler.
Nous étions sur Meuse FM. Merci de nous avoir écoutés.
Merci à tous.
Sans plaisir, Meuse.